à ce passage-là, chapitre 9, 10 et 11, l'apôtre se soucie d'Israël. Et l'actualité nous rappelle que Israël ne connaît pas la paix. Hein. On n'a pas besoin de... Je pense que la terre entière sait ce qui se passe actuellement là où dans le pays du Seigneur. Et si les lecteurs du Nouveau Testament comprennent que, comme on dit, à un moment Israël a raté une étape, elle a manqué la venue du Messie, le prince de la paix, elle ne l'a pas reconnu. Et depuis, les problèmes perdurent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé il y a 2000 ans? Jésus-Christ est venu, le Messie d'Israël. Et les textes de la Nouvelle Alliance nous rappellent tout ça. Ils sont tous écrits par des Juifs, à l'exception de Luc, peut-être. Mais pourquoi? La question qui se pose, c'est pourquoi ils sont passés à côté? Pourquoi ils ont refoulé Jésus-Christ? Pourquoi ils l'ont mis de côté? Pourquoi il y en a simplement quelques-uns qui ont cru dans le Messie? Et donc, c'est une question que se posaient certainement les chrétiens de l'époque. Et donc, Paul a parler de cela dans les chapitres, après avoir parlé de l'évangile, dans chapitres 9 et 10 et 11, il a à cœur de partager, mais pourquoi ils ont échoué, pourquoi ils n'ont pas cru. Et donc, il répond à certaines objections dans tout ce texte, et il dit, premièrement, que Dieu est souverain. Dieu est souverain. C'est lui qui fait grâce. Il décide comme il veut, et c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, la souveraineté de Dieu. Mais alors, si Dieu décide comme ça, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste pour tous les autres qui n'ont pas cru? Eh bien, Dieu dit que Dieu reste juste. Le problème, c'est les hommes qui sont pécheurs. Et c'est une grâce que Dieu fasse miséricorde. C'est une grâce que de pouvoir être pardonné. Et Dieu est un Dieu qui fait énormément grâce, qui pardonne énormément, mais qui peut aussi endurcir quand cela est nécessaire. Dieu est souverain. Mais s'il en est ainsi, pourquoi fait-il reproche à son peuple? Là, l'apôtre répond, oh là, nous, on est comme des vases d'argile, et Dieu est comme un potier. C'est lui qui nous façonne. On n'a pas à contester de la façon dont il procède aux choses. Et de toute façon, si Dieu décide de faire miséricorde, s'il prépare des vases où ils vont déverser sa miséricorde, c'est lui qui fait le vase de cette façon-là. Et puis, si d'autres refusent, ça devient des vases qui vont, hélas, recevoir sa colère. C'est quelque chose qui est bien triste. Mais Dieu est souverain. Et c'est quoi que les Israélites ont manqué? Et il explique ensuite, à la fin du chapitre 9, ils ont cherché à établir leur propre justice. Ils n'ont pas cherché à être soumis à la justice de Dieu. Ils ont essayé en obéissant à la loi. Ils ont essayé en faisant des bonnes choses. Ils ont construit une loi qui leur corresponde. Ils ont fait de leur mieux, mais tout cela, c'était pas suffisant pour satisfaire à la justice de Dieu. La seule façon de satisfaire à la justice de Dieu pour tout le monde, c'est de croire en Jésus-Christ. C'est la seule façon d'être juste et de trouver la justice de Dieu. C'est la foi dans son Fils qu'il a envoyé, comme on l'a entendu au début du culte dans la lecture de Ésaïe 53. Et donc, maintenant, l'autre question qui peut se poser, mais est-ce que tous les Israélites ont vraiment entendu cette bonne nouvelle? Est-ce qu'ils l'ont comprise? Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu n'aurait pas fait ou aurait mal fait? Et donc, dans le passage d'aujourd'hui, Paul va encore répondre et étayer ce qui concerne la mise à l'écart d'Israël, pourquoi ils n'ont pas reconnu le Messie. Pourtant, tout avait été fait pour cela. Alors, c'est le titre du message pour aujourd'hui. Que tous entendent la bonne nouvelle. C'est le titre du message que j'ai choisi. Romains chapitre 10, donc versets 12 à 21 que nous allons lire maintenant. Ainsi, il n'y a aucune différence entre le juif et le non-juif, puisqu'ils ont tous le même Seigneur, qui se montre généreux pour tous ceux qui font appel à lui. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Mais comment donc feront-ils appel à celui qu'ils n'ont pas cru, en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui qu'ils n'ont pas entendu parler? Comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. En effet, Esaïe dit, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ou dans notre version, qui a cru à ce qu'ils ont entendu. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de la parole du Christ. Je demande alors, n'auraient-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur discours jusqu'aux extrémités du monde. Je demande encore, Israël n'aurait-il pas compris? Moïse, le premier, dit, je provoquerai votre jalousie par ce qui n'est pas une nation, je provoquerai votre irritation par une nation sans intelligence. Quant à Esaïe, pousse la hardiesse jusqu'à déclarer, je me suis laissé trouver, donc Dieu, je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas, les païens, je me suis révélé à ceux qui ne me demandaient rien. Mais au sujet d'Israël, il dit, à longueur de journée, j'ai tendu mes mains vers un peuple désobéissant et rebelle. Une bonne nouvelle, non? Un petit peu plus haut, il y a toute une série de versets là qui sont précieux quand on veut parler de la bonne nouvelle de Jésus. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu t'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Affirme l'apôtre Paul, et c'est une doctrine qu'il expose ici, c'est quelque chose de très fort. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Celui qui croit en Jésus ne sera pas couvert de honte. Toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Encore une autre façon de l'exprimer, c'est Esaïe au chapitre 53. On a pu noter que Paul a cité le chapitre 52 qu'on a lu au début du culte, le chapitre 53 et le suivant, il fut blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Une bonne nouvelle que l'on peut exprimer de façon différente à travers tous ces versets, on peut les utiliser et bien d'autres. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Maman de Jean disait, pas ce mercredi, le mercredi d'avant, je crois, ah, c'est, voilà, ça c'est un verset qu'il faut dire. Quand j'ai pas dit ce verset-là, je suis pas content. Il faut que j'arrive à, quand je veux donner l'évangile, il faut que j'arrive à citer Jean 3,16. Une bonne nouvelle, donc. une bonne nouvelle qui est diffusée, on le voit. Versets 14 et 15. Comment donc feront-ils appel à celui qui n'ont pas cru? Comment comprendront-ils en celui qui n'ont pas entendu parler? Par les oreilles, donc c'est le mot oreille là, qui se trouve dans le texte. Et comment entendront-ils parler si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Évangéliser, c'est annoncer la bonne nouvelle. Et donc, on l'a vu dans Ésaïe 52, les messagers qui ont une joie extrême d'annoncer ce qu'ils voient. Ils voient Dieu revenir à Jérusalem. Et qu'est-ce que le texte suivant suit? Ben, c'est Ésaïe 53, c'est l'homme souffrant, le serviteur de l'Éternel. Jésus de Nazareth, Dieu est venu à Jérusalem sous la forme d'un serviteur. On l'a chanté tout à l'heure. Le serviteur de l'Éternel, c'est le bouc émissaire, hein. Premièrement pour le peuple juif, celui sur qui tout va retomber. Et pas seulement cela, c'est également celui pour nous-mêmes, hein, tous les peuples, au verset 11 et 12 de Ésaïe 53. Mais bon, on a ici un mouvement d'une extrême joie qu'il y a dans ce texte qu'on a lu tout à l'heure. Évangéliser, c'est annoncer une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle. Évangéliser, c'est par la parole. Hein. Verset 14 à 17, là, c'est en fait, dans le grec, c'est le mot oreille, j'ai regardé. Alors, ça faudrait dire oreiller, mais on ne peut pas mettre oreiller en français, quand l'oreiller, c'est ce qu'on dort. Mais c'était cette idée d'oreiller la bonne nouvelle, de la faire entendre aux oreilles des autres, en quelque sorte. Et c'est ce mot-là qui ressort 8 fois dans tous ces passages, d'une forme ou d'une autre, hein. Par les oreilles, par les oreilles. Donc il s'agit de parler. Et nous, hein, pour parler, on n'est pas très fort. Généralement, on ne sait pas quoi dire, ou alors on ne sait pas bien le dire. Et souvent, on dit des choses qui ne sont pas adaptées, qui ne sont pas appropriées. On sait qu'avec la langue, on peut faire beaucoup de mal, beaucoup du bien aussi, mais également, c'est une source qui sort tantôt de l'eau douce, tantôt de l'eau amère, comme dit Jacques. Et donc, c'est compliqué avec la bouche. Mais c'est par là que Dieu a choisi que cette bonne nouvelle serait diffusée. Voilà. Il faut que le message de l'évangile ne tombe pas du ciel comme ça. Non, il y a des vecteurs humains qui doivent le dire. C'est ainsi que Dieu l'a souhaité. Ce n'est pas une voix qu'on entend du ciel, mais c'est une voix par des personnes qui sont envoyées par Dieu. Qui sont envoyées par Dieu et non pas un message qui est à eux. C'est un message qui vient de Dieu et qu'elles doivent dire et annoncer à tout le monde. Alors, peut-être vous êtes comme moi, timide, on n'aime pas, voilà. Moïse disait, j'ai la langue embarrassée, quand il voyait le buisson ardent, quand Dieu lui parlait, il trouvait toutes sortes d'excuses pour pas y aller. Bon, Dieu nous connaît, hein, et il nous a donné son Esprit Saint pour ce travail-là. On va en reparler. Évangéliser, c'est par la bouche, par la parole, et ça passe par les oreilles de ceux qui entendent ces paroles-là. Et donc, ce sont des envoyés qui évangélisent, des gens qui sont envoyés pour cela. Et d'où ça vient, ça? Ben, Matthieu 28, 18 à 20, on lit ceci. À la fin, Jésus est ressuscité et avant de monter au ciel, il donne cette instruction à ses disciples qui sont tous là, autour de lui, à ce moment-là, ils sont tous là. Et il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et donc ce commandement est entouré par l'assurance que Jésus a tous les pouvoirs. Celui qui nous envoie, c'est celui qui a tout dans sa main, qui a absolument le monde entier dans sa main, on chante des fois. Et ça se termine en disant, je suis avec vous. Donc, ceux qui ont entendu à ce moment-là, et nous aussi qui entendons, on peut être rassurés que ce travail d'évangélisation, on va pas le faire tout seul. Dieu est avant nous, Dieu est après nous. Hein, comme on a lu dans Ésaïe 52 tout à l'heure, hein, il nous suit et il nous précède. Qui sont les envoyés? Alors on pense bien sûr, si on connaît le Nouveau Testament, il y a Paul, il y a Barnabas, ils étaient envoyés par l'église d'Antioche. Et ils ont évangélisé et ils ont fait toute une tournée en Europe, jusqu'en Asie mineure, et puis ils ont été jusqu'en Europe une autre fois. Voilà, Silas, tous ces noms célèbres, et puis on a peut-être le nom d'évangélistes qui nous viennent aux oreilles. Ah oui, on a peut-être entendu parler de Spurgeon ou de Billy Graham tout dernièrement, et ils sont nombreux, les évangélistes connus, même dans le milieu français, hein, il y en a. Mais Jésus a parlé à tout le monde. Il a envoyé tout le monde. Et on va reparler de ça dans un instant. On va voir un petit peu tout ça. Une bonne nouvelle donc qui est diffusée. Et donc le peuple juif a entendu cette bonne nouvelle. Hélas, il continue après au verset 16 et 17, une bonne nouvelle qui n'est pas crue. Verset 16, tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. En effet, Isaïe dit, Seigneur, à qui notre prédication? Qui a cru à notre prédication? Qui a cru à ce que nous, qu'ils ont entendu? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tous n'ont pas obéi. Et ce mot obéir, c'est entendre à ses oreilles et faire. C'est un petit peu comme les enfants qui entendent la voix de leurs parents, qui leur demandent quelque chose, et puis qui vont le faire. Ils vont obéir. C'est dans ce sens-là. L'évangile est donc une bonne nouvelle, mais une bonne nouvelle qui appelle à un choix. Il va falloir on entend cette nouvelle, mais ça appelle à une décision. Pardon. Et il y a des exemples. Est-ce que j'ai le temps de lire les exemples qu'on a dans la Bible? On va quand même lire l'exemple de la façon dont faisait Paul pour évangéliser. Comment il appelait ses auditeurs à agir en conséquence. Donc, livre des Actes. On va lire un extrait que l'apôtre Luc, que Luc nous a laissé dans la Bible. Acte 13, versets 26 à 33. Donc, on est avec Barnabas, c'est les premiers discours qui nous sont rapportés comme un exemple, un modèle, et on peut supposer que, voilà. C'est un petit peu la façon dont pour procéder. Alors, je vais juste lire des extraits parce que ça commence au verset 14, mais on va démarrer au verset 26. Il est dans la synagogue. « Homme, frère, fils de la race d'Abraham, s'adresse à des Juifs, et vous qui craignez Dieu, aux prosélytes qui étaient là, aux tous les païens qui s'intéressaient à la parole de Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus en le condamnant. Ils ont accompli les paroles des prophètes qui se disent chaque sabbat. quoiqu'ils n'aient en lui trouvé rien qui soit digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, ils le descendirent de la croix, le déposèrent dans un sépulcre. Il raconte des faits ici. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant des témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle. Voilà. Que la promesse faite à vous, nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2, etc. Il va citer la parole de Dieu. Un petit peu plus loin, au verset 38. Sachez donc, ô mes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque est justifié par lui de toutes les choses que vous ne pouviez pas être justifié par la loi de Moïse. Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qu'il a dit par les prophètes. Voyez, vous les arrogants, soyez étonnés, disparaissez, car je vais faire de vos jours une œuvre que vous ne croirez pas si on vous la racontait. Donc, il dit, attention, si vous ne croyez pas à ce message. Et lorsqu'ils sortirent, verset 42, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. À l'issue de l'assemblée, beaucoup de juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas. Beaucoup se sont convertis, qui s'entretèrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu, ça s'est diffusé. Les juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul et le contredisaient en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, « C'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la repoussez, et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations et pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Les païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Voilà, donc une annonce public, et puis il y a une décision à prendre. Et il faut faire un choix. Quand on entend l'évangile, il faut faire un choix. Ça nous place devant des choix. Qui a cru notre message, dit-on en Ésaïe 52. Et Paul s'appuie sur les prophéties pour dire que voilà, c'est pas surprenant que le peuple juif n'ait pas entendu. Et il ajoute: la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, j'ai dit le mot oreille là tout à l'heure. Qui a cru à notre oreillage? Qui a cru à ce que nous avons dit, hein? Et la foi vient de ce qu'on entend avec ses oreilles, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, il ne s'agit pas d'écouter un envoyé, il ne s'agit pas d'écouter ou d'entendre un homme qui parle, mais là, il s'agit vraiment d'entendre Dieu. Et les auditeurs doivent entendre Dieu lui-même leur parler au-delà du message. Hein, c'est ce que ce texte dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il faut que la parole de Dieu soit entendue et qu'on ne réponde pas à l'appel d'un orateur, mais on réponde à l'appel de Dieu lui-même. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'une église, il ne s'agit pas d'une confession de foi, il ne s'agit pas de ceci ou de cela. Il s'agit d'entendre Dieu et de répondre à Dieu, Dieu lui-même. Tous n'ont pas obéi. Pourtant, l'évangélisation a été faite au verset 18. Je demande alors, n'aurait-il pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur discours jusqu'aux extrémités du monde. Pourtant, l'évangélisation a été faite. Paul semble dire que tous les Juifs ont, à ce moment-là, ont entendu l'évangile. Et cela pouvait certainement être le cas. toute la diaspora juive était dans l'Empire romain. L'Empire romain, ses voies de circulation étaient assez rapides et on était quand même dans les années 58, presque 20, plus de 20 ans après que le Seigneur est ressuscité. Donc vraiment le message avait pu être diffusé et on le voit, tous les juifs venaient dans les synagogues et les chrétiens allaient dans les synagogues, leur parler. Et donc c'est pas surprenant que toute cette génération-là ait entendu ce qui concerne le Messie Jésus-Christ. Mais Paul cite ici au verset 18, leur voix est allée par toute la terre, le psaume 19. Et on va lire une partie de ce psaume 19 parce que c'est très, je trouve que c'est, ça nous instruit beaucoup et ça va nous apprendre des choses quant à la façon dont la parole de Dieu se répand. Psaume 19, on va lire les premiers versets. Au chef des chantres, psaume de David, verset 2. Les cieux racontent la gloire de Dieu. L'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leur accent vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil, où le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux, il achève sa course à l'autre extrémité, rien ne se dérobe à sa chaleur. Et donc on a cette image de l'évangile qui a été partout. La création, on le sait, parle et rend témoignage de la gloire de Dieu. Dans le psaume 19, il est question des astres, il est question de toute la merveilleuse horloge céleste qui nous entoure et qui nous émerveille quand on voit les étoiles et quand on voit la façon dont l'alternance des saisons et tout ce qui se passe et la façon dont Dieu a administré le monde qui nous entoure. Ça parle de sa gloire, mais aussi cette gloire, on le sait, se voit à travers mille et un petits détails de tout ce que Dieu a créé. Toutes les fleurs chantent Alléluia quand elles fleurissent. Elles font de leur mieux pour être les plus belles possibles. Et les oiseaux et tout ce qui nous entoure, et même les plus petites fourmis, quand on les regarde, Dieu parle et Dieu parle à travers, nous parle à travers tout cela. Et l'évangélisation n'est pas donc l'affaire seulement des prédicateurs, de ceux qui sont envoyés, certainement. Ça a un rôle déterminant. Mais tous les chrétiens sont appelés à parler de l'évangile et pas de la même manière, peut-être que les prédicateurs. Mais chacun va pouvoir, à son niveau, avec les dons qu'il a, pouvoir contribuer à ce travail de l'évangélisation. Au début de son épître, l'apôtre Paul rappelle tout cela en Romains chapitre 1, versets 18 à 25. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice que les hommes retiennent injustement la vérité captive, car que ce l'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu leur ayant fait connaître, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les contemple dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils n'ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. Et donc, il y a un jugement qui suit cela. Le langage de la création est clair et les hommes sont responsables de ne pas d'écouter de la même manière. Le langage de l'évangile est clair et les hommes ont la responsabilité de l'écouter. Et il leur parvient d'une multitude de façons différentes, une multitude de canaux différents, cet évangile. L'évangélisation, au moins dans ce qui concerne le peuple juif, était faite. Et il termine en disant, ils n'ont pas cru et pourtant, ils ont été évangélisés et pourtant, Israël savait. Ils savaient cela. Ils n'étaient pas quelque chose qui était incompréhensible sur eux. Et Paul cite le cantique de Moïse dans les versets qui suivent. Je demande encore, Israël n'aurait-il pas compris? Moïse le premier dit, je provoquerai votre jalousie par ce qui n'est pas une nation. Je provoquerai votre irritation par une nation sans intelligence. C'était l'extrait d'un chant, Deutéronome 32, que les Israélites devaient apprendre et qui annonçait toutes ces choses-là. Tout à l'avance était comme écrit, la façon dont ils allaient s'empâter un petit peu, et puis ils allaient devenir idolâtres, et finalement ils n'écouteraient rien, ils seraient endurcis, et Dieu devrait les juger, les chasser de la terre promise, pour après les faire revenir. Et dans ce texte-là, on voit que ils savaient. Et les païens, par la façon dont ils vont se tourner vers leur Dieu, leur Messie, va les provoquer leur jalousie, va les rendre jaloux. Et tout ça, c'était écrit à l'avance. Et il cite également Isaïe 65, versets 1 et 2. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas, je me suis relevé, révélé à ceux qui ne me demandaient rien. Les païens, donc, que nous sommes. Au sujet d'Israël, il dit, à longueur de journée, j'ai tendu mes mains vers un peuple désobéissant et rebelle. Israël savait. Alors, on n'a pas fini avec cette histoire de l'endurcissement d'Israël et de l'arrivée, l'ouverture de la bonne nouvelle aux païens. Il y a une suite après, on verra une autre fois. Mais là, à ce niveau, maintenant, que va-t-on faire avec ce texte? Alors, si je ne suis pas converti, il faut comprendre que quand j'entends l'évangile, ce n'est pas un homme qui me parle, c'est Dieu qui me parle. C'est Dieu qui me demande de croire en Jésus, mort et ressuscité, de mes fautes. Il me demande de croire en son Fils. Il me demande de déclarer à haute voix, de le croire dans mon cœur, pas quelque chose qui soit de surface. Ça n'intéresse pas Dieu. Dieu, ça l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est notre cœur. Et de le croire avec le cœur, de le confesser avec la bouche, comprendre que c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Et on est donc avec un choix, avec des conséquences. Si je le crois, je serai purifié par le sang de l'aspersion et j'aurai l'assurance de cette faveur de Dieu, Dieu qui, être favorable à Dieu. Tout le souhait le plus profond de tous les hommes, c'est d'avoir la faveur de Dieu, que Dieu leur soit favorable. Ce sera possible par le sang de Jésus. Et si je ne crois pas, eh ben je suis, recevoir la coupe de la colère de Dieu. Je vais être une coupe de colère. Et il faut choisir. Choisis la vie. Encourage Moïse. Après ce cantique du Deutéronome 32, choisis la vie afin que tu vives. Si je ne suis pas converti, donc voilà, ce message, il est là. Et pourquoi évangéliser si je suis enfant de Dieu? Pourquoi évangéliser si je suis enfant de Dieu? Ben, on l'a vu, hein, Jésus l'a demandé. Ça, c'est une bonne raison. Très, très bonne raison. Jésus l'a demandé. Je ne suis pas venu au Seigneur par hasard. Dieu a forcément utilisé des personnes pour me faire entendre l'évangile. C'est toujours, toujours comme ça. Il y a toujours des gens qui ont été utilisés et par lesquels j'ai compris l'évangile. Personne ne peut dire « Je ne dois rien à l'Église de Jésus. » Personne. Et même si Dieu sait ce qu'il va sauver, même si on peut dire tout est écrit à l'avance, on a quand même une responsabilité personnelle, une contribution à apporter à ce plan de Dieu. Alors c'est un grand mystère. Dieu a tout prévu et en même temps, on doit rentrer dans là-dedans. On doit rentrer, on a une place, on a un rôle à jouer, indispensable. L'évangile ne se diffusera pas autrement que par l'Église de Jésus. Et donc, cette évangélisation n'est pas terminée, c'est une autre raison pour laquelle on doit évangéliser. Dans les enfants d'Israël, toutes les générations devaient découvrir, apprendre, comprendre la loi. C'était quelque chose qui était remis à plat à chaque génération. Il y a des générations qui ont très bien saisi cette consécration à Dieu qui était la leur. Et puis d'autres générations qui ont lamentablement échoué. Donc le travail d'évangélisation n'est pas terminé. Chaque génération doit l'entendre à nouveau. Pourquoi donc il faut évangéliser si je suis enfant de Dieu? Et comment évangéliser? Psaume 19 parle de la création qui parle de la gloire de Dieu. Et on peut transposer ça donc à l'évangélisation. Alors il y a certains qui ont des dons pour l'évangélisation. Hein. Peut-être vous avez déjà entendu des personnes comme Fernand Legrand. Hein, c'est un homme qui était remarquable, bon, maintenant il est auprès du Seigneur. Mais il était extraordinairement doué avec sa voix. Ça aurait fait un homme politique de premier rang. Tant il était doué pour s'adresser aux personnes. Mais bon, si les prédicateurs, les évangélistes prêchent devant une assemblée qui est remplie que de chrétiens, ça ne sert pas à grand-chose. Hein. Il y a certains qui ont des dons pour faire des contacts, qui vont facilement nouer des relations, qui vont pouvoir facilement faire des invitations quand il y a des événements, quand il est question de l'évangile. Et puis, il y a d'autres qui vont avoir une vie de prière profonde, sincère, intense, zélée, pour prier au Seigneur que ta parole aille aux extrémités du monde, que ton évangile soit entendu. Ils vont prier, peut-être qu'ils ne peuvent pas faire beaucoup d'autres choses, mais c'est tellement précieux. D'autres vont pouvoir pas avoir peut-être beaucoup de courage, mais on peut mettre des traités dans les boîtes à lettres. On commence par ça et après on prend de l'assurance. On peut parler de l'évangile dans son quotidien également. C'est la façon dont l'évangile s'est propagé. Quand il y a de la persécution, on ne peut pas parler comme ça dans la rue à haute voix. Donc ça se fait par le bouche à oreille, ou hein, voilà, à travers les conversations de tous les jours. Et il y en a qui savent très bien faire ça. Et il y a d'autres qui vont amener des personnes à l'église. Et puis il y a d'autres qui vont financer pour qu'il y ait des Bibles qui soient achetées, que la parole de Dieu soit diffusée au maximum. Et ils vont vraiment s'investir dedans. Il va être toujours ce projet que ton évangile se répande. Et il y en a d'autres qui vont soutenir les missionnaires, qui vont leur écrire, qui vont les soutenir, les encourager, qui vont cotiser pour eux. Ceux qui partent au loin. Il y en a d'autres qui vont être sensibles aux besoins des gens, qui vont pouvoir créer des ponts, des liens avec eux, qui vont pouvoir entrer en communication avec tel ou tel groupe de personnes. Et tout ça, ça travaille, participe à ce travail d'évangélisation. L'important, c'est d'être conduit par le Saint-Esprit pour accomplir le plan que Dieu a prévu. C'est une message qui est joyeux, ne l'oublions pas, à la base, c'est une bonne nouvelle. Et il ne faut pas être surpris donc que nos auditeurs se retrouvent devant un choix. Des fois, moi je sais que j'ai peur de les amener devant ce choix, parce que c'est un choix qui est tellement important, mais c'est quelque chose qui est naturel, c'est normal que cela se fasse. Il s'agit de Dieu qui parle à travers l'Évangile, et il ne s'agit pas de nous. Il s'agit de Dieu et il s'agit de nous là-dedans. Qu'est-ce qu'on est? Rien du tout. On n'est que des porte-voix, mais il s'agit de la relation entre eux et Dieu. Dieu veut leur parler. Et c'est sérieux, c'est important. Et la réponse qu'ils vont donner est importante. Alors, voilà comment évangéliser. Bon, vous aurez peut-être tellement de choses à ajouter, je ne suis pas le plus compétent pour en parler. Je voudrais ajouter un encouragement pour évangéliser. Donc, l'Esprit Saint donne de la joie dans ce travail. Est-ce que vous avez déjà connu cela? C'est quelque chose qui est réel quand on rentre dans ce travail d'évangélisation. Là, l'Esprit Saint nous remplit de joie. C'est comme ça. Hein? Et je pense que chacun de nous l'avons expérimenté chaque fois qu'on a l'occasion de partager cette bonne nouvelle. Un autre point, c'est entrer dans le plan de Dieu, entrer dans la prophétie. Hein? C'est quelque chose qui est géant. On court tellement après d'expériences, maintenant c'est un petit peu à la mode, voilà, il faut faire des expériences, je te fais le saut à l'élastique, je fais tellement de choses pour avoir des expériences, des sensations. Mais avoir l'expérience et la sensation d'entrer dans la prophétie de Dieu qui envoie et qui veut sauver des gens, qui veut les avoir pour lui, pour ses enfants. Entrer dans ce plan-là, entrer dans cette prophétie de ces textes, ah ben c'est quelque chose qui donne du sens à toute une existence. Toute une existence trouve son sens là-dedans. Entrer dans le plan de Dieu. Troisième point d'encouragement, Dieu peut sauver. Il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. C'est ce qui est dans les premiers chapitres qu'on a lu, et Paul commence par cela. Dieu peut. Dieu est capable. Et des fois, on se retrouve dans la situation où on a parlé à nos familles, on a parlé à... Mais il n'y a rien, il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de... Alors, est-ce qu'ils n'ont pas entendu la voix de Dieu derrière ou est-ce que, voilà, on ne sait pas. Ça n'a pas marché. Et des fois même... On a l'impression qu'on a fait du travail à l'inverse de ce qu'il fallait. On a essayé. Ça a été catastrophique, peut-être. Mais Dieu peut utiliser quelqu'un d'autre. Dieu peut utiliser quelqu'un d'autre pour arriver à ce que cet évangile soit enfin compris. Et si on transpose cela à nous-mêmes, on peut être ce quelqu'un d'autre pour son frère. On peut être ce quelqu'un d'autre pour sa sœur. Ou on peut être ce quelqu'un d'autre pour des personnes qu'on ne connaît pas. Et Dieu utilise ses enfants comme il le fait, mais on peut être ce quelqu'un pour une autre personne, et une autre personne peut être ce quelqu'un pour ces personnes qu'on a tellement à cœur, mais on n'y arrive pas. Souvenons-nous donc, Dieu peut, il peut tout, c'est lui qui tient tout, et ça, c'est quand même très, très encourageant, parce que s'il s'agissait de nos forces, on serait complètement désemparés devant notre petitesse, notre faiblesse et notre indignité et toutes les choses que Satan nous souffle à nos oreilles pour nous décourager. Mais Dieu peut faire. Dieu peut faire. Alors on va prier. Seigneur, merci pour ce beau message de l'Évangile. Tout est parfait dedans. C'est bien de toi. Tout est nickel. Tout ce que tu as prévu est parfait. Fais-nous grâce, Seigneur, de nous permettre de rentrer dans ce plan que tu as prévu. On a tellement de personnes qui nous ont précédés. On ne sait pas les résultats que l'on peut avoir, Seigneur, ils sont à toi, que nous puissions faire et agir pour toi, pas pour notre, pas pour nous-mêmes, mais que la seule motivation, ce soit toi, ce soit qu'on te connaisse, qu'on te trouve, qu'on t'aime, et partager cette bonne nouvelle. Aide-nous à l'exprimer correctement avec notre bouche chaque fois qu'on doit le faire avec de l'assurance. Aide-nous à nous préparer également à ces choses-là, à le faire avec sérieux. Aide-nous dans notre vie de prière, dans notre consécration, dans notre argent, dans notre temps, dans tout ce qui fait notre vie. Et merci pour les occasions que tu nous as données. Merci pour les frères et sœurs. Merci pour tous ceux qui participent à ce travail d'une façon ou d'une autre. Merci pour ceux qui nous entraînent. Merci pour ceux qui nous ont précédés. Merci pour ceux qui nous ont fait un jour entendre cette bonne nouvelle et arriver à comprendre que c'est toi qui parlais. Et c'est à toi qu'on disait oui. Et à personne d'autre. Toi, notre Créateur. Merci bénir notre Église dans son travail pour la fête de Noël qui est devant nous aussi. Et de faire merci parce qu'on peut le faire collectivement, on peut le faire ensemble, on peut le faire individuellement, on peut le faire de mille et une façons. Que ton nom soit glorifié. Par Jésus. Amen.